Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc de nouveau ensemble dans nos hebdomadaires Lectures en liberté pour la suite du roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Guy le Cobra. À mon réveil, je n'avais qu'une idée en tête. Revoir Apocalypse Now. Il devait être midi, le soleil éclaboussait la chambre. J'avais un peu mal au crâne, mais sans plus. Pour une cuite au whisky, je pouvais m'estimer heureux. Je me suis jeté sur mon ordinateur pour télécharger le film, mais ça ne marchait pas. J'ai pensé alors à Guy le Cobra. Il devait forcément avoir Apocalypse Now en stock. Sa boutique n'était qu'à 5 minutes. Je n'ai même pas pris le temps d'attendre l'ascenseur et me suis précipité dans l'escalier. J'avais dormi tout habillé, si bien que dans ma joie je suis parti comme ça, sans avoir fait ma toilette. Dehors, il y avait un temps splendide et la lumière était chaude, bleu-jaune, avec le parfum acide et violent des grands jours d'été. En arrivant au coin de la rue de la Pie, j'ai eu le vertige et me suis appuyé contre l'étal de fruits et légumes du jardin de Paris qui ouvre sur la place Édith Piaf. Des grappes de raisin, des oranges, des poires, des pommes, des figues étincelaient au soleil. Et tous ces fruits m'ont fait du bien. C'était doux et frais. Exactement ce dont j'avais besoin. Il y avait longtemps que je n'avais pas éprouvé une telle douceur, une telle fraîcheur. La solitude est bonne, mais sans doute ma vie était-elle excessivement aride. Un peu de réconfort serait le bienvenu. J'ai acheté une boîte d'efferalgan à la pharmacie et j'ai avalé le comprimé tout de suite en prenant de l'eau à la fontaine Wallace. Puis, j'ai retiré de l'argent au distributeur automatique. Il ne restait que 20 euros sur mon compte. Je n'étais pas surpris. Même si je n'achetais presque rien, la petite somme sur laquelle je vivais depuis que j'avais vendu la voiture avait fondu. Il était évident qu'il aurait fallu trouver une solution, passer des coups de fil, remplir des formulaires. Mais je n'en avais pas la force. À une époque, j'avais eu de l'argent. Certains de mes livres avaient même été des succès, disons des semi-succès. Mais j'avais tout dépensé. Depuis plusieurs années, je laissais ma vie rouler sur elle-même. J'avais confiance. Et en même temps, je m'en foutais. Était-ce par désespoir? Je ne crois pas. Ma négligence relève plutôt d'une sorte de bonheur. Un bonheur insensé, un bonheur extravagant. Il faut être fou sans doute pour éprouver une telle insouciance, alors qu'on frôle le gouffre. Je me suis toujours senti comme Ismaël dans Moby Dick, lorsqu'il dit « Je récite le texte de Melville et j'en suis tramé comme les phrases de mon scénario. » Au cœur de l'Atlantique tourmenté de mon être, il m'arrive de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi sans toucher la place profonde et intime où baigne l'étincelle de ma joie. Voilà. Je suis quelqu'un qui ne s'oppose pas à l'univers. L'univers nage en moi. Ma chance, c'est que je ne payais plus de loyer. L'agence allait vendre l'appartement que j'occupais. Je devais quitter les lieux le 1er octobre et comme j'y vivais depuis 20 ans, on m'avait offert en dédommagement 2 mois de loyer gratuit, le temps que je m'organise. Du coup, je ne m'inquiétais pas. Il y aurait toujours un article à écrire pour un quelconque journal ou un carton rempli de vaisselle ancienne dont je pourrais tirer une centaine d'euros pour peu que j'aille fouiller dans ma cave. J'avais vaguement compté sur The Great Melville pour me renflouer, mais sans pour autant que j'en fasse une question de principe, sans que je ne me monte la tête avec l'idée si séduisante, si gratifiante du chef-d'œuvre incompris. Et je dois bien reconnaître qu'à force de n'en faire qu'à ma tête, je m'étais mis, comme Melville l'énonce cruellement à son propos, à écrire ce genre de livres dont on dit qu'ils sont des échecs. Et de fait, The Great Melville était un échec, un formidable échec. Personne, pas même Pointel, ne l'avait vraiment lu. Personne jamais ne le lirait, à part moi, qui certains soirs, au plus fort de l'ivresse, m'en récitait des pages avec le lyrisme tonitruant d'un Flaubert passant Madame Bovary au gueuloir. Mais au fond, un échec, ça veut dire quoi? Je ne croyais pas en l'échec. Celui de Melville était proportionnel à l'exigence qu'il animait. Il indiquait une gloire secrète. La société qualifie d'échec ce qui ne répond pas à sa demande. Elle exclut de la réussite ce qui déborde ses critères. Je n'étais pas tellement impressionné par l'idée que la société se fait de la littérature. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Tout le monde croit savoir ce qu'est la littérature, mais personne n'y connaît rien. Moi, ce matin-là, avec mes 20 euros, mon vertige, ma gentille cuite et mon envie irrépressible de voir Apocalypse Now, ce matin-là et tous les matins de ma bienheureuse et approximative existence, tous les soirs et toutes les nuits, non seulement il me semblait que je savais ce qu'était la littérature, mais qu'en un sens, la littérature, c'était moi. Oui, j'étais ce héros saugrenu qui, doutant de tout, croyait en son étoile. J'étais ce bras d'honneur souriant. J'étais cette lumière qui scintille entre une hirondelle, une rangée de papyrus et un lit célibataire. J'étais cette nuit blanche où viennent s'inscrire aussi obscures que comiques ce qu'il faut bien appeler des révélations. Mes 20 euros en poche, j'ai couru jusqu'à la petite boutique de vidéos de la rue des Pyrénées, où officie Guy Le Cobra. Il était assis sur un banc face aux tables où sont exposés ses DVD en promotion. Une lumière orange, ocre bien chaude, miroitait dans les feuillages au-dessus de sa tête. Les jambes croisées, avec cette nonchalance que j'apprécie chez lui, Guy Le Cobra se roulait un joint. On l'appelle ainsi à cause du tatouage sur son bras gauche. C'est un grand type à la dégaine de rocker fatigué, tout en noir, qui connaît l'histoire du cinéma dans ses moindres détails. Si vous cherchez tel obscur western français avec Jean-Pierre Léo, non seulement il vous dira qu'il s'agit de Une aventure de Billy the Kid de Luc Moulet, à coup sûr il l'aura vu et vous gratifiera d'une analyse qui vous fera saliver d'impatience. Mais en plus, il vous en trouvera un exemplaire. Et si vous n'avez pas d'argent sur vous, ce qui m'arrivait souvent, il vous le prêtera. Guy Le Cobra vivait lui aussi dans un monde composé de noms. Dès qu'il citait un réalisateur, c'était pour le comparer à un autre, dont les films appelaient à leur tour une série de comparaisons. De nouveaux noms germaient alors passionnément dans son esprit, le plus souvent à toute allure, si bien qu'en quelques minutes, cet univers de référence avait pris la place de ce qu'on nomme la réalité. Il y avait sans doute bien longtemps que celle-ci n'existait plus à ses yeux. Guy Le Cobra avait-il l'intérieur de la tête mystiquement alvéolé? Pas sûr. Derrière la vie des noms, il y a parfois celui de Dieu, mais la plupart du temps, il n'y a rien. Les noms parlent aux noms, c'est le début de la joie. Lorsque je lui parlais ce jour-là d'Apocalypse Now, il commença par faire la moue. Guy n'aimait pas Coppola. De manière générale, il ne croyait pas à sa folie et donc pas non plus à sa poésie. Les riches, dit-il, ne peuvent pas être poètes. Mieux valait selon lui la dinguerie illimitée d'un Werner Herzog. Avais-je vu les films d'Herzog ? Il fallait absolument que je voie Fitzcarraldo, me dit-il en me tendant son joint. C'est ce film où Klaus Kinski veut construire un opéra dans la jungle. Il essaie de hisser un bateau jusqu'au sommet d'une montagne au Pérou. Selon Guy Le Cobra, ce film était un chef-d'œuvre, complètement sous-estimé et scandaleusement minoré par la critique. Sa dimension métaphysique, comme il disait, l'apparentait aux plus grandes quêtes. « C'est un Graal fou », m'expliqua-t-il. Dans Fitzcarraldo, plus encore que dans Aguirre, Klaus Kinski, le plus grand acteur du monde, dit-il bien meilleur que Marlon Brando, impose un jeu shakespearien et parvient au sacré. Il est à la fois le roi et celui qui assassine le roi. Très bien, dis-je, mais moi je voudrais Apocalypse Now. Il fallait que Guy Le Cobra me trouve tout de suite un DVD d'Apocalypse Now. J'en avais rêvé cette nuit. Ce film avait quelque chose à me dire, un message précis, lui dis-je. Est-ce qu'il avait, oui ou non, Apocalypse Now ? Bien sûr, dit-il. Il se dirigea vers le break stationné face à la boutique, ouvrit le coffre et en sortit d'un carton un exemplaire de la version longue d'Apocalypse Now. Coppola, précisa Guy, avait été obligé de raccourcir son film pour la commercialisation. Elle l'avait amputé de scènes cruciales. Mais avec cette édition, on voyait enfin le film dans son intégralité. La folie n'avait cessé de régner sur ce tournage aux Philippines. Selon Guy, l'un des plus déments de l'histoire du cinéma. 238 jours de paranoïa, de drogue, de maladie, d'accident, avec même un typhon dévastant le plateau et une guerre qui bloquait les routes du pays. Et cette avalanche de destruction avait détruit à son tour l'esprit de Coppola qui chaque nuit réécrivait la fin de cet interminable film sur des Bristol blancs qu'il transmettait à Brando, lequel, sans même avoir lu le livre de Conrad, dont Apocalypse Now est l'adaptation avec son crâne rasé de bonze et ses 130 kilos, avait finalement trouvé comment incarner à lui tout seul une montagne, comment donner voix à cette montagne et comment la briser, oui. Brando, le temps d'un monologue inouï, improvisant d'un seul souffle le testament du monde occidental enlisé dans les sables mouvants du nihilisme, comme le dit Guy, était devenu, selon lui, à la fois le Sinaï et les tables de la loi, ou plutôt un contre-Sinaï portant une contre-table de la loi.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Yannick Hennel, tiens ferme ta couronne. Je suis rentré chez moi triomphal avec le DVD d'Apocalypse Now. En me voyant passer dans le hall, Madame Figo est sortie de sa loge comme une furie. Avec des gens comme moi, dit-elle, sans même me saluer, il était impossible de faire correctement son travail. Elle m'accusait de ne jamais ouvrir ma boîte aux lettres, les plis s'entassaient si bien que maintenant elle était bouchée, dit-elle, et qu'elle ne parvenait plus à y glisser le courrier. Il se trouve que je n'étais plus en possession de la clé de ma boîte aux lettres, dis-je à Madame Figo, que cette nouvelle négligence de ma part scandalisa. « Dans ce cas, dit-elle, vous auriez dû me le signaler immédiatement. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Je vais me plaindre au syndic. »« Plaindre de quoi ? » ?»« Je me le demandais bien. »« J'ai le droit, dis-je Madame Figo, de ne pas ouvrir mon courrier. »« Mais tout le monde ouvre sa boîte aux lettres, » répliqua-t-elle. « Vous n'êtes pas normal ou quoi ?»« Ben c'est vrai, je n'ai pas envie d'être normal, je n'ai pas envie d'ouvrir le courrier, j'aimerais qu'on m'oublie. Eh bien eux, ils ne vous oublient pas, dit Madame Figo, avec le sourire perfide de celle qui porte l'estocade. Elle me tendit une enveloppe où je reconnus immédiatement le mot « impôt ». Ben, « c'est impossible, je ne suis pas imposable. » Madame Figo haussa les épaules. Elle savourait ma défaite. Tout le monde paye ses impôts. Mais pas moi, je n'ai pas d'argent. Vous comprenez, je ne gagne tout simplement pas assez d'argent pour être imposable. Elle me semblait légèrement vexée, mais il y avait maintenant dans son regard une nuance de mépris. Celui qu'on a pour les pauvres. En ouvrant l'enveloppe, j'ai compris qu'il me réclamait 800 euros. C'était la taxe d'habitation. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais alors que Madame Figo attendait que je réagisse, alors qu'elle attendait le chiffre et qu'elle espérait mon dépit, voire mes lamentations, j'ai brandi le DVD au-dessus de ma tête en le tenant bien haut des deux mains comme une pancarte. « Apocalypse !» ai-je hurlé. « Apocalypse now !» Et j'ai filé sans laisser le temps à Madame Figo d'ouvrir la bouche. Lorsque je le regardais le matin-là, je dis matin même si nous étions déjà l'après-midi, car je m'étais recouché avec un bol de café, j'avais tiré les rideaux pour éviter les reflets sur l'écran, et Saba était endormi à mon côté, étendu de tout son long sur la boîte du manuscrit. lorsque je le regardais ce matin d'août, Apocalypse Now me brûla les yeux, comme si je me déplaçais à toute allure sur les échelles de la cabale. Tandis que j'écris ces lignes, loin, très loin, dans une forêt où la solitude m'ouvre à une attente qui a remplacé la peur, cette brûlure continue. Elle donne à ce livre des battements de cœur. Voilà, c'est la jungle. Des hélicoptères survolent une forêt de palmiers. Les palmiers prennent feu, la forêt brûle. Les enfants brûlent. Les buffles, les chèvres, les tigres brûlent. Le ciel est mangé par de grandes flammes rouges. Une fumée orange et noire envahit l'écran. La voix de Jim Morrison s'élève, mêlée au bruit des pales d'hélicoptère. « This is the end, my only friend, the end. » C'est une voix d'outre-tombe qui plane sur le chaos, la voix d'un grand prêtre récitant une messe de fin du monde. La cérémonie commence, on entre dans un monde sacré, The End. C'est le titre de la chanson des Doors. The End, c'est le message. Napalm. Il était donc 15h le 23 septembre, lorsque je reçus le SMS de Pointel. Le téléphone vibra sur mon bureau, réveillant Saba. Il avait pris l'habitude de se coucher de tout son long sur la boîte à biscuits qui renferme mon manuscrit comme s'il en protégeait l'accès. Pour me lire, il faut passer par le chien, me disais-je en riant. Comme la guirlande de papyrus, comme le vol invisible de l'hirondelle, comme les films dont chaque jour et chaque nuit m'offraient le stock inépuisable, le chien de Toth appartenait au cercle que la chambre traçait autour de moi, à ce minutieux dispositif que j'avais mis en place durant l'été et qui, aujourd'hui que tout a disparu, continue à éclairer mes gestes. Une odeur d'herbe coupée entrait par la porte-fenêtre. Elle me prodiguait sa fraîcheur comme une faveur marine. Je me croyais dans les mers du sud, sur le pont d'un baleinier qui vogue parmi les îles aux senteurs de poivre, entouré d'une nuée d'hirondelles entrelaçant leur joie autour du grand mât. Le message disait « Jackpot ?» J'ai cru que Pointel me fêtait mon anniversaire. Jackpot était peut-être une manière subtile de me demander si avoir 50 ans était une victoire. Et puis j'ai pensé que Pointel ne pouvait pas savoir que j'avais 50 ans aujourd'hui, ni même que le 23 septembre était mon anniversaire. J'ai souri en me remémorant sa phrase. Si vous parvenez à réveiller Michael, jackpot. Il s'était passé 5 mois depuis mon retour de New York, 5 mois d'un large été, et même si je n'avais fait, comme à mon habitude, que tourner autour des 3 grands pôles de mon existence, ordinateur, frigo, vodka, même si je n'avais fait qu'approfondir les 2 activités du solitaire, boire et perdre son temps. Il me semblait que cette période avait été capitale, et qu'à travers les films que je n'avais cessé de regarder, cet immense été s'était ouvert comme les branches de sapin au passage du daim blanc effarouché. On ne s'était pas revu, Pointel et moi, depuis ce fameux mois de mars où il m'avait communiqué le numéro de téléphone de Michael Cimino. Je ne l'avais tenu au courant de rien. Pourquoi l'aurais-je fait ? J'ai des habitudes de solitude qui peuvent paraître brutales à certains. Je ne réponds jamais au téléphone et depuis longtemps plus personne ne m'appelle. J'ai eu des amis, quelques amours aussi. Mais un jour, sans aucune raison, les gestes les plus ordinaires vous apparaissent vides. Vous vous rendez compte ? En vous promenant dans le petit sentier, qu'il n'y a rien derrière la haie. Bref, je faisais partie de ces gens pour qui recevoir un SMS relevait de l'événement. Je répondis aussitôt. J'ai rencontré Simino. Pointel réagit du tac au tac. Dînons ensemble. Puis il ajouta ce soir 20h chez Bofinger. J'acceptai. Sorti du lit et rassemblé les dizaines de canettes de bière qui étoilaient la chambre. C'était une belle journée, ciel bleu, soleil calme, vent léger, la journée idéale pour sortir du lit. Il arrive qu'on oublie ce cœur de tigre qui vous halète sous la peau de l'océan. On perçoit la mer comme une terre fleurie et, comme dit Melville, une douceur triste, un peu mystique, monte dans l'air couleur de rose. C'est ainsi que ce 23 septembre avait un air de fête. Ma solitude aujourd'hui me semblait légère. Peut-être allais-je carrément me sentir heureux. Je me suis habillé, j'ai mis ma chemise préférée, la gris-perle, celle que je réserve pour les grandes occasions. Je la portais quand j'ai rencontré Simino. Puis j'ai enfilé mon vieux manteau anthracite, celui qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années, dans lequel je m'enveloppe été comme hiver lorsque les aventures reviennent. Voilà, il était environ 15h30 et j'étais prêt. L'esprit tendu vers mon rendez-vous, je souriais. Qu'allais-je faire maintenant ? Il me restait plus de 4 heures avant de voir Pointel. L'idée était de sortir Saba dans une heure ou deux, de lui donner sa ration pour la nuit, puis d'aller tranquillement chez Bofinger à pied. Il faisait beau, marcher me ferait du bien. Et d'ici à Bastille, en passant par le Père Lachaise, il fallait moins d'une heure. Je n'étais pas sorti depuis des semaines. En général, l'idée de parler avec quelqu'un me semble insurmontable. Et puis j'aime que les journées soient complètement vides. Même si je ne fais rien, il faut qu'elles restent à disposition. Il faut que le matin, l'après-midi, le soir restent ouverts. Lorsque j'ai un rendez-vous, le désir d'annuler devient d'heure en heure irrésistible, car alors la journée entière tend vers ce point qui la comprime, les angles se resserrent, il n'est plus possible de penser à autre chose, on n'a plus de solitude, on étouffe. Mais ce jour-là, j'avais envie de voir Pointel, envie de reprendre le cours de cette histoire. S'il voulait soudain avoir de mes nouvelles, s'il souhaitait me revoir 6 mois après m'avoir quasiment ri au nez dans son bureau, ce n'était pas pour me parler de mon scénario. Non. Ce qu'attendait Pointel, c'était que je lui parle de Simino. Il était curieux de savoir ce qui avait bien pu se passer entre lui et moi. Était-il même possible que Michael Simino rencontrât qui que ce soit ? Car s'il continuait à obtenir partout dans le monde des récompenses pour sa carrière de cinéaste sans avoir rien tourné depuis plus de 20 ans, si les rumeurs les plus extravagantes circulaient sur Internet concernant sa santé, certains sites américains n'hésitant pas à affirmer que les multiples opérations de chirurgie esthétique qui avaient refaçonné son visage masquaient un changement de sexe. Plus personne, pas même Pointel, ne savait s'il était en vie. Voilà, nous arrivons à la fin de notre lecture pour ce soir et nous retrouverons demain la suite de ce roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.